Bonjour, bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de Chiz 94.3. Ici Naomi Laflamme, votre animatrice, en compagnie, comme toujours, de Jeanne Desrosiers, ma précieuse collaboratrice.
Bonjour!
Donc aujourd'hui, nous abordons la question du transport et de la mobilité, qui est vraiment un enjeu central dans les questions climatiques. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait ça vous brosser un portrait du secteur des transports et de son importance dans la lutte au changement climatique. Donc, pour commencer, Jeanne, pourquoi le secteur des transports est un enjeu primordial dans la lutte au changement climatique?
Mais en effet, Naomi, la question des transports en est une majeure dans le cadre des changements climatiques, tant à cause des émissions que ce secteur représente là, que pour le potentiel que le secteur des transports peut représenter en termes d'atténuation, mais aussi en termes de résolution des inégalités socio-économiques à travers là, des mesures de lutte au changement climatique. Donc, c'est un constat qui trouve là, particulièrement sens au sein de la province de Québec. En effet, les transports représentent environ le 30 % des émissions globales de GES dans le monde, mais au Québec, là, la proportion s'élève plutôt autour de 43,3 %, ce qui est supérieur également là, au taux canadien qui, lui aussi, est autour là, de 30 %.
Donc, c'est un nombre important là, quand même.
Oui, c'est un secteur où il serait possible de faire une véritable différence dans le bilan d'émissions de la province, mais également, là, comme le démontrent tous les débats sur la scène publique et politique, c'est un secteur qui est essentiel au mode de vie des Québécois et des Québécoises et qui traverse déjà une multitude de remise en question qui pourrait être résolue là, par la mise en place de nouvelles politiques qui viennent là, en même temps réduire le bilan le carbone du secteur.
Donc, on comprend que la lutte au changement climatique, particulièrement là, dans la province de Québec, doit passer là, par une réduction massive des GES dans le secteur des transports, puisque justement au Québec, ben, c'est le domaine qui émet le plus de GES, comme tu viens de le préciser, Jeanne. Donc, sur quoi on devrait se concentrer pour réduire les émissions dans le secteur du transport là, concrètement? Quelles sont les priorités pour ce qui est des politiques d'atténuation puis de réduction des GES?
Mais la priorité, c'est véritablement le transport routier, qui représente 70 % des émissions directes liées au transport selon le GIEC. Alors là, que le transport maritime, aérien là, et par rail se divise le reste, de manière plus ou moins égale. La priorité semble tout d'abord d'être la gestion de la demande en transport. Donc, de tenter de redéfinir les besoins en transport en réduisant la fréquence des déplacements nécessaires par les utilisateurs, mais aussi la distance nécessaire à parcourir pour se rendre là, du point A au point B. Donc, en effet, avec l'apparition notamment du télétravail avec la pandémie, il serait possible de réduire ben, une bonne partie de la quantité de déplacements en lien avec le lieu de travail. Il va falloir aussi modifier la demande en déplacement en déplaçant celle-ci vers d'autres moyens de transport. Donc, il faut dévier la demande de l'auto solo vers les transports collectifs ou le transport là, actif. Donc, le but, c'est vraiment là, d'engager des changements de comportement autant au niveau des individus que des organisations.
OK. Donc, il faut changer nos modes de vie puis nos comportements de manière individuelle et collective, justement face au transport. Et donc, pour ça, ben, il faut faire une plus grande place au transport collectif et au transport actif. Et là, je viens de nommer deux termes, là, justement, transport collectif, transport actif, qu'on utilise souvent comme des synonymes, mais c'est vraiment deux termes différents. Donc, j'aimerais ça vous présenter un peu la différence entre les deux, donc transport collectif et actif. Donc, premièrement, le transport collectif, ça prend en compte vraiment tout ce qui est transport en commun. Donc, les autobus, métro, tramway, les trains aussi, le covoiturage aussi. Et le transport actif, de l'autre côté, ça fait référence en fait au mode de transport plus actif. Donc, vraiment, là, qui va être... qui va utiliser notre propre énergie mécanique. Donc, c'est vraiment des... Ben en fait les modes habituels là, de la marche ou du vélo. Donc voilà pour la différence. Mais donc comment concrètement on peut favoriser le transport collectif et le transport actif?
Mais l'étape qui suit là dans le fond là dans le développement là des transports là dans une optique de réduction des émissions, c'est vraiment là ça vient en diade avec la précédente, c'est de revoir la forme des établissements humains, donc l'urbanisation puis la planification du territoire. Les nouveaux développements, ils doivent répondre à des exigences de proximité puis d'intégration au réseau de mobilité pour favoriser les déplacements de proximité pour les résidents. Puis les développements déjà en place doivent revoir leur organisation pour tenter de mieux répondre à ce qu'on appelle la ville à échelle humaine.
Donc, tu viens de nommer un concept aussi qui est important dans ce domaine-là. Donc, la ville à échelle humaine. Donc, selon l'organisme Accès Transport Viable, la ville à échelle humaine, c'est un concept qui décrit une ville qui est construite et aménagée tout d'abord pour les personnes piétonnes et les cyclistes. Et donc, c'est pas une ville qui est construite centrée autour de la voiture, alors que ben, depuis plusieurs années, ben, c'est plutôt ça qu'on connaît. Donc, vraiment, là, les villes, l'aménagement est vraiment centré autour de l'utilisation de la voiture. Et donc, le but, c'est de faciliter l'utilisation du transport collectif et du transport actif et de mettre de côté, justement, l'utilisation de la voiture solo. Donc, le but, c'est que tout devienne accessible à pied et à vélo. Par exemple, justement, en créant une mixité dans les quartiers. Donc, on mélange les commerces, les résidences, les lieux de travail aussi, pour pas que ça devienne des quartiers distincts. Donc, que tout soit plus accessible à pied et à vélo. Et aussi que des infrastructures soient mises en place pour assurer une plus grande sécurité, une plus grande accessibilité aussi pour les citoyens. Donc, on peut juste penser à des pistes cyclables aussi. Et aussi des trottoirs plus larges, justement, pour assurer la sécurité des piétons. Donc, on favorise le transport actif d'abord et ensuite, on favorise le transport collectif pour venir compléter les objectifs de réduction de l'auto solo.
Oui, donc tout ça peut passer par des politiques municipales, l'ajout de services, d'infrastructures, la révision de la distribution des transports collectifs sur le territoire. Donc, ça peut être autant des mesures plus locales, donc par exemple, comme tu le disais, l'élargissement des trottoirs, donc mais aussi l'élimination de voies pour les voitures, pour privilégier le transit dans le fond du transport collectif, mais ça peut être aussi là dans des de manière plus large, par exemple une révision là de l'attribution du transport collectif sur le territoire en revoyant les parcours, en modifiant là aussi la flotte par l'acquisition là de différents modes de transport. Voilà. Et ensuite, finalement, la dernière étape quand on pense là, à la modification du secteur des transports dans le cadre de la lutte au changement climatique, c'est l'électrification des transports. Avec comme priorité, évidemment, les transports collectifs. Parce que la source du problème vient davantage de l'utilisation en solo d'un véhicule que de son caractère électrique, en fait. Donc, l'automobile électrique, elle réglera pas les problèmes d'émissions de GES. Un, parce que les technologies reliées à ce véhicule sont coûteuses. Exigeante en approvisionnement de ressources naturelles, avec toutes les batteries, tout ça, puis inaccessible pour une majorité de la population. Donc, ça ne résout pas le problème de la multiplication des véhicules sur les routes, parce qu'au final, c'est des gens qui ont déjà les moyens d'avoir des voitures qui vont faire l'acquisition de plusieurs véhicules électriques. Ça ne règle pas le problème. Puis au final, ça ne permet pas non plus de desservir davantage les populations qui ont besoin du transport collectif, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une automobile individuelle.
Puis ça nous permet pas de réduire non plus notre consommation d'énergie en tant que telle. Puis c'est ça qui est problématique aussi.
Non, c'est ça. C'est qu'on déporte la demande en énergie d'une source à une autre.
Ouais, exactement.
Mais notre problème, il change de nature au sens où, oui, l'électricité, elle produit moins de GES. Mais en ce moment, une des problématiques, c'est qu'on consomme trop d'énergie par individu pour ce qui est nécessaire à la vie. Si on se tournait davantage vers des transports collectifs, on n'en aurait pas besoin. Donc, la production, c'est ça, comme je disais, électrique renouvelable, est insuffisante pour permettre à chaque individu d'avoir son propre véhicule électrique. Fait que non seulement c'est pas une situation qui est économiquement possible que tout le monde ait son propre véhicule électrique, mais même là, on produit pas assez d'hydroélectricité pour dire qu'on serait capable de fournir toutes ces nouvelles voitures-là. Donc au final, faut vraiment se concentrer sur l'électrification du transport collectif. Donc multiplier cette offre-là pour que l'utilisation d'une voiture individuelle soit de moins en moins nécessaire et utile même, puis que les gens aient tendance à délaisser ce mode de transport-là.
Okay.
Voilà. Au final, c'est ce qu'on appelle l'approche RTA, donc réduire, transférer, améliorer, ce qui doit être fait dans cet ordre. Donc, un, réduire, on l'a dit, diminuer les besoins et les distances de déplacement. Deux, transférer, donc transférer les déplacements qui restent après l'étape 1 vers des modes de transport moins polluants que l'auto, comme le transport actif et collectif. Puis ensuite, on améliore. Donc, une fois là, qu'on a tout réduit ces demandes-là puis qu'on a fait les déplacements nécessaires, là, on améliore l'efficacité énergétique des véhicules restants. Puis on diminue les émissions de carbone des carburants, donc des carburants plus propres. Mais principalement, c'est l'électrification là, pour avoir des comportements éco-responsables au volant. Il faut, c'est ça, électrifier là, l'ensemble du transport collectif. Puis aussi, mm-hmm. si jamais, pour des questions de contexte, là, selon où on habite, oui. ou nos besoins, il va encore avoir des gens qui vont avoir besoin d'un véhicule là, pour eux.
Oui, c'est ça,
ben, à ce moment-là, c'est de choisir des véhicules qui sont moins énergivores, mm-hmm. plus petits, plus sécuritaires.
Ouais, faut être réaliste quand même. Donc, OK, oui, l'utilisation de la voiture, mais vraiment à plus petite échelle, on réduit vraiment là, les déplacements qui sont pas nécessaires. Ouais. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire, il faut implanter des nouvelles infrastructures, mais aussi modifier celles qui sont déjà présentes sur le territoire pour favoriser les piétons et les cyclistes, et donc vraiment favoriser le transport actif plutôt que le transport par voiture. Donc, maintenant que le portrait est fait, on se souvient que notre émission se concentre sur la justice climatique, donc les questions aussi de justice sociale et comment c'est relié justement aux questions des enjeux climatiques, en fait. Et donc, il faut comprendre que le secteur des transports et tous les enjeux climatiques en fait, englobent aussi des enjeux d'inégalité socio-économique. Donc, on va se concentrer là-dessus maintenant. Donc maintenant qu'on sait là, qu'il faut faire des ajouts majeurs et des modifications au réseau de transport, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer les déplacements, donc pour réduire bien entendu les émissions, mais aussi pour que ça puisse bénéficier à toute la population. Donc vraiment que ça soit une offre qui soit plus égale et accessible pour tous. C'est quoi la vision adoptée pour inclure justement ces notions-là d'accessibilité et d'égalité dans la question des transports?
Effectivement, la question des transports puis de la mobilité en général là, soulève là, des enjeux d'inégalité sociale et économique. Mm-hmm. On va pas se mentir. Donc, dans des espaces où tout était pensé puis accommodé pour la voiture, ben les personnes sans voiture, sans permis de conduire, parfois même, sont les plus affectées puis peuvent souffrir d'un manque de mobilité. Ou les personnes aussi qui n'ont pas la possibilité physique et aussi de conduire, faut pas oublier. Et ça inclut autant les personnes avec handicap, mais également on a des groupes de la population qui peuvent plus conduire, donc par exemple nos aînés, mm-hmm. ou aussi nos étudiants qui ont moins de 16 ans, qui ont eux aussi des besoins de mobilité, mais qui n'ont pas l'accessibilité là à la voiture nécessairement. Donc c'est souvent des personnes déjà plus vulnérables, notamment des personnes dont le revenu va être plus faible.
Mm-hmm, aussi.
Il y a aussi des quartiers dans lesquels ces personnes-là vivent qui offrent pas une bonne offre de transport collectif, donc des quartiers qu'on dit enclavés, qui se retrouvent là encore plus exclus et isolés parce qu'ils peuvent pas sortir pour entretenir des liens sociaux, parce que ça peut aussi avoir de la difficulté à trouver un emploi à cause de la proximité puis des limites, mm-hmm. Étant donné qu'on a pas de véhicule individuel, puis qu'on n'a pas accès au transport collectif, ben si on veut, le rayon dans lequel on est capable de se déplacer est considérablement réduit, ce qui peut créer là, une vulnérabilité à l'échelle d'un quartier, en fait, puis précariser là, la situation économique des gens qui y vivent. Donc, face à ça, je répondrai là, avec les quatre piliers qui soutiennent la mission d'accès au transport viable, donc une organisation qui s'attaque là, à la question de la mobilité durable pour la grande région de Québec, en défendant là, notamment les droits des usagers. Donc, ils vont comme suit, les quatre piliers, donc la ville à échelle humaine qu'on a vu un peu plus tôt, mm-hmm. le droit à la mobilité durable et la vision zéro en sécurité routière.
Donc, comme tu viens de le dire, on vient de parler de la ville à échelle humaine, mais pas des trois autres. Donc, qu'est-ce qui définit ces trois autres piliers? Puis comment les quatre piliers, en fait, interagissent entre eux?
Ben, un, pour le droit à la mobilité, en résumé, c'est que tout le monde a besoin de se déplacer et tout le monde devrait être en mesure de le faire. Se déplacer, c'est un besoin de base. Mm-hmm. Tout le monde en a besoin pour accomplir les différentes but, objectif qu'on se met dans la vie. Donc, au nom du droit à la mobilité, les infrastructures de transport et les véhicules qui assurent les déplacements doivent être adaptés à tous les types de clientèle pour permettre à tous d'être en mesure de se déplacer. Ensuite, pour la mobilité durable, si je cite accès transport viable, la mobilité durable, c'est d'offrir des options de mobilité efficaces, sécuritaires, pérennes, équitables, intégrées au milieu et compatibles avec la santé humaine et les écosystèmes. Mm-hmm. Puis finalement, pour ce qui est de la vision zéro en sécurité routière, on la comprend tout simplement comme le refus d'accepter que les accidents routiers, ce sont des collatérales là, inévitables du fait de se déplacer puis de concevoir les transports comme quelque chose qui peut entraîner là, des blessures ou la mort. Donc, il faut arrêter de penser ça. Puis il faut essayer de concevoir le secteur des transports, de la mobilité, pour réduire à zéro les accidents de la route. Donc, en ce sens, on s'attarde particulièrement aux usagers des transports actifs, donc marche, vélo, qui demeurent les plus vulnérables sur la route. On s'entend, là, quand vous êtes dans votre véhicule, une auto, c'est un peu plus équipé là, pour vous protéger en cas de collision que ben, un vélo ou juste d'être à pied. Puis, ces quatre principes-là, ils vont permettre d'implanter là, un système de transport puis de planifier un développement urbain qui est pérenne, sécuritaire puis faible en carbone.
Donc, si on veut se pencher au niveau plus local, donc parler de la ville de Québec en tant que telle, donc justement, il faut des propositions concrètes pour la ville pour justement réduire les inégalités sociales dans le domaine du transport. Donc, comment ces principes-là peuvent être appliqués concrètement? Puis, qu'est-ce que ça viendrait améliorer? Qu'est-ce que ça viendrait, en fait, mettre en place comme mesure?
Ben, je pense qu'on peut penser pour le droit à la mobilité, à l'inclusion des personnes avec handicap. Donc, les infrastructures demeurent là, déficientes là, pour les accueillir en ce moment dans le secteur des transports. Par exemple, ben, les passages piétons, ils ont pas tous de signalement sonore pour les personnes avec une vision réduite. Donc, ça. Mais également, il y a peu de trottoirs qui présentent des abaissements ou des rampes pour permettre là, les déplacements optimaux aux personnes à mobilité réduite. Puis pour les fauteuils roulant là, ou électrique. Pour ce qui est de la mobilité durable, on peut penser aux quartiers qui demeurent enclavés, comme on l'a dit, c'est-à-dire qui sont sous-desservis là, par les transports en commun puis qui présentent peu de commerces de proximité, parce que c'est ça aussi. C'est pas juste qu'il n'y a pas de transport en commun, c'est qu'on on va pas développer là, des projets dans ces secteurs-là. Donc, comme dit précédemment, bien, les personnes sans voiture qui habitent dans ces quartiers-là vont souvent être vulnérables. Donc, il faut se concentrer sur une offre diversifiée de transports collectifs et actifs qui permettrait de réduire les inégalités en matière de mobilité dans ces régions-là. Puis finalement, pour la vision zéro, on doit penser surtout à la sécurité des piétons et des cyclistes, mais particulièrement à la sécurité des écoliers. Je pense que on en entend de plus en plus parler. La campagne de publicité gouvernementale en ce moment en parle justement du fait qu'il y a énormément d'abus de vitesse dans les sections scolaires. Donc, en ce sens-là, il faut avoir des mesures pour encadrer davantage ça, s'assurer que les routes scolaires, donc les routes qui sont souvent empruntées par des écoliers pour se rendre à l'école, ont toujours des infrastructures piétonnes, donc des trottoirs pour assurer la sécurité des passages piétons prioritaires, des brigadiers également. Il faut investir dans ça. Puis en ce sens-là, on vous invite à signer la pétition là, pour le droit des enfants à marcher en sécurité, qui est là, une pétition lancée là, par Accès Transport Viable en collaboration avec d'autres organismes et des particuliers qui ont vécu justement des drames en lien avec ça. Le lien vous sera partagé sur nos réseaux sociaux, mais je pense que c'est vraiment là, une des choses qui doit être la priorité parce que on parle quand même là, d'êtres humains qui sont mineurs et de petite taille, donc beaucoup plus vulnérables là, aux déficiences là, du système de transport actuellement.
C'est ça. Ben effectivement, puis justement, t'en parlais un petit peu tantôt, mais le fait qu'on soit dans une voiture, justement, on est des fois surélevé, puis on se sent un peu dans notre propre cocon. Donc, on prend pas en compte la question de la sécurité des gens autour, les piétons. Et donc, justement, il faut se concentrer là-dessus.
Oui, puis comme mon instructeur de conduite m'avait déjà dit un jour, faut toujours assumer que les enfants, eux, ils ont le droit de rêvasser, puis ça se peut qu'ils traversent la rue sans regarder. C'est notre responsabilité de les regarder.
Bon point, genre. Voilà. Donc, justement, comme tu viens de le mentionner, on se retrouve avec quatre principes clairs, les quatre piliers. Et donc, ces piliers-là peuvent être utilisés pour mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la mobilité des villes, mais aussi la mobilité des régions québécoises. Mais bon, ça, c'est un autre sujet aussi qui est aussi très large. Donc, on s'en occupera dans un prochain épisode. Maintenant, il reste quand même beaucoup d'obstacles pour appliquer ces principes-là, puis justement mettre en place des politiques qui assurent la mobilité durable. Donc, on peut justement voir là, dans les actualités, dans les dernières semaines, qu'il y a beaucoup de défis à surmonter. On peut juste penser à la question des financements des sociétés de transport. Et aussi, on voit qu'au niveau des acteurs politiques, il y a un manque de volonté puis de clarté politique par rapport aux grands projets de mobilité. Par exemple, tout ce qui entoure là, les questions du troisième lien puis la question du tramway à Québec. Donc, ces questions-là, les deux, en fait, créent beaucoup de tensions pour les citoyens en tant que tels de la Ville de Québec, mais aussi entre les municipalités de la Rive-Sud puis la Rive-Nord. Puis, ça crée des tensions aussi entre les paliers de gouvernement, donc le municipal, le provincial, puis d'une certaine mesure aussi le provincial. Donc, le fédéral, désolé. Donc, quels sont les changements qui sont nécessaires face au niveau politique pour réussir à transformer de manière efficace, efficiente et durable les transports? En d'autres mots, à qui revient la responsabilité de trancher sur ces questions-là et d'implanter des projets de mobilité qui sont durables?
Ouais, ben je crois que c'est clair que du financement supplémentaire là, doit être accordé au secteur des transports. Vu son bilan carbone, on sait que c'est le secteur qui émet le plus. Pour notre province, il est nécessaire là, d'y investir pour réussir la lutte au changement climatique, sinon ça va être un échec. Donc, la province devrait investir plus, mais le fédéral aussi devrait reléguer plus d'autonomie aux provinces pour bâtir leur propre stratégie en la matière, au niveau des transports. Sinon, je crois qu'une priorité, c'est de laisser une plus grande marge de manœuvre aux municipalités, aux MRC, pour planifier le développement de la mobilité sur leur territoire, parce que ce sont elles qui sont finalement plus à même d'estimer les besoins de leur population, c'est elles qui sont les plus proches. Mm-hmm. Je pense que pour la question des transports, là, il y a vraiment une logique de proximité là, qui doit s'implanter. Sinon, ben, le gouvernement provincial devrait, quant à lui, là, se concentrer sur le transport interrégional, qui est hautement déficient au Québec et qui ne peut là, être entre les mains là, que d'un seul acteur régional. Donc, il n'y a pas une MRC qui peut gérer le transport interrégional d'une MRC à une autre. C'est vraiment là, au Québec de prendre l'enjeu en main. Bref, je pense que la répartition des responsabilités en transport doit être revue. Parce que, surtout au niveau municipal, qui doit être doté des moyens de modifier son territoire là, pour y favoriser une mobilité durable, on voit là, que le gouvernement provincial, le fédéral aussi, bloque beaucoup de projets qui viennent des municipalités, alors que c'est eux qui connaissent les besoins de leur communauté. C'est une question qui est un peu à double tranchant. Je pense que les initiatives doivent venir du palier municipal, mais le provincial pourrait venir jouer plus un rôle de régulateur pour s'assurer, par exemple, que les projets proposés respectent la directive en matière de réduction des émissions de GES. Mais ça reste une question de point de vue là, pour le moment, parce qu'il manque toujours là, d'initiatives politiques pour qu'on soit vraiment capable de revoir là, cet équilibre-là.
Puis même s'il y a une volonté justement des municipalités d'en faire plus pour la mobilité, ben c'est souvent ceux qui sont un peu plus dépendants des subventions gouvernementales, du provincial, du fédéral aussi. Donc il y a comme il y a un blocage là entre les paliers justement parce que le pouvoir d'action c'est un peu les municipalités qui l'ont, mais l'argent, le financement, ben c'est les autres paliers de gouvernement qu'ils ont.
Ouais, puis le financement descend pas très rapidement là, vers le niveau municipal.
Effectivement. Puis justement avec tout ce qui est des questions de financement de société des transports là. Comme de la STM à Montréal et tout, on voit que, justement, ça crée beaucoup de tensions.
Exactement.
Donc, voilà, à revoir. Maintenant, j'ai parlé là, brièvement du troisième lien, mais j'aimerais revenir là-dessus. Donc, en fait, on avait un peu écarté le projet là, au printemps dernier par l'annonce de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Et donc, on avait abandonné le troisième lien qui était autoroutier. Et cet abandon-là de cette promesse forte, ben ça avait créé beaucoup de mécontentement dans la population, plus que c'était un bris de promesse, mais aussi ça avait créé du soulagement dans une autre partie de la population. Mais on voit en fait que le fait que le projet refasse surface, ben justement, ça ramène ces tensions-là, puis ça ramène beaucoup de questions par rapport à la mobilité durable. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette décision-là du gouvernement de ramener le projet? Parce que là, on comprend que pourquoi le projet a été remis sur la place publique? C'était une question, en fait, d'écouter l'électorat. Donc, plus, en fait, selon le gouvernement, c'est d'être à l'écoute de la population. Mais on voit que c'est plus pour satisfaire l'électorat. Donc, comment le gouvernement peut justement gérer ces deux côtés-là? Donc, satisfaire son électorat, mais aussi de répondre aux impératifs de la lutte climatique?
C'est une décision, là, évidemment, là, purement électoraliste. Et évidemment, là, on peut de ramener le troisième lien, puis on peut pas se permettre ce genre de digression-là dans l'État plus que sous-optimale là, actuelle de la lutte au changement climatique. En effet, là, on connaît les effets de rajouter des routes. Plus on augmente la capacité routière, donc le nombre de routes ou de voies, plus on améliore là, les conditions des routes. Ça incite encore plus de citoyens à prendre la route, donc avec une automobile solo. Finalement, ça va encore créer plus de trafic. Donc, le troisième lien, il va pas aider la fluidité entre la rive nord et la rive sud au niveau de la mobilité. Ça va amplifier le trafic, puis ça va accroître le phénomène d'étalement urbain. Fait qu'au final, même le problème sur lequel les gens qui veulent un troisième lien se plaignent, donc le trafic, ne sera pas amélioré. Mm-hmm. Donc, ça ne répond pas aux besoins. Point. C'est certain que ça peut paraître, par exemple, paternaliste de refuser d'implanter un projet qu'une partie de la population désire au nom du bien commun, ce qui est bon, mais on n'a plus la latitude de pouvoir hésiter sur ces questions-là, malheureusement. Il aurait fallu que les gouvernements passent à l'action beaucoup plus tôt en matière de changement climatique, mais là, il n'y a plus de place pour à l'ambivalence sur ces questions-là. Il faut un leadership climatique. Et ce, aussi de la part des élus municipaux des régions, il y a une volonté pour un troisième lien. Parce que ça ne viendra pas régler le problème de la mobilité puis de la circulation routière. Ça, il va falloir que ces élus-là le comprennent et fassent passer le message à leur population et élaborent avec leur population, leurs électeurs, des solutions qui répondraient véritablement à leurs besoins. Parce que là, en ce moment, en ne défendant un projet qui n'est pas viable, là, puis en s'obstinant à défendre ce projet-là, ben un, on ne répond pas aux demandes des électeurs.
Ouais.
On les fait poireauter en attendant une solution qui ne les aidera pas. Mm-hmm. On leur fait des fausses promesses, puis on ne règle pas la lutte au changement climatique. Donc, au final, là, toute cette situation-là, là, ça a une somme nulle. Il y a rien de bon qui va sortir de ça.
Oui, voilà. Donc, mais c'est difficile quand même pour les gouvernements puis les élus, justement, de le faire comprendre à la population puis d'aller contre l'acceptabilité sociale. Justement, on a aussi d'autres enjeux, là, par exemple le tramway et tout, mais c'est des questions aussi que les élus municipaux, les élus provinciaux vont devoir se concentrer aussi. Donc, c'est une question qui va faire aussi appel à cette contradiction-là entre l'acceptabilité sociale, le besoin de l'électorat, puis aussi les impératifs de la lutte climatique. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode qui portait justement sur les questions de transport, puis le lien avec les changements climatiques. Donc, on vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, ou vous devez nous contacter pour d'autres raisons, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook dans la mer climatique ou par notre adresse courriel info@commercialdanslamerclimatique.ca. Donc, finalement, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!